Donc les rythmes circadiens sont certainement un exemple de démarche intégrative. Je voudrais illustrer ce que j'entends par là de diverses manières, à la fois parce que ces rythmes sont une propriété du système biologique tout entier. De plus, on peut les approcher par des approches complémentaires. À l'aide de la modélisation mathématique d'autre part, et puis ils s'étendent du domaine des études fondamentales au domaine des applications cliniques. Alors, ces rythmes sont caractérisés par une période de l'ordre de 24 heures, mais bien entendu en biologie, on connaît des rythmes qui ont des périodes qui couvrent près de 12 ordres de grandeur. Depuis les rythmes les plus rapides dans les neurones, jusqu'aux rythmes les plus lents en écologie ou en épidémiologie, où les rythmes se mesurent avec des périodes de l'ordre de plusieurs années, alors que dans les neurones, c'est une fraction de seconde. Et les rythmes circadiens, ici, au milieu de 24 heures, sont ceux dont je voudrais parler aujourd'hui. Alors, on les connaît depuis longtemps, et les premiers exemples viennent de la botanique. En tout cas dans la littérature, puisque Linné, le botaniste suédois, en 1751 a proposé une horloge florale. Vous voyez ici qu'il est écrit que certaines espèces de fleurs s'ouvrent le matin et d'autres se ferment l'après-midi. Et à chaque heure du jour, on peut associer l'ouverture et la fermeture d'un type de fleur. Donc ces rythmes de 24 heures ont attiré l'attention depuis longtemps. Bien entendu, on les connaît également en physiologie humaine, j'y reviendrai à la fin de l'exposé. Ici, vous avez, c'est un film qui, pour une raison obscure, ne fonctionne plus sur mon ordinateur. Donc, pour illustrer le fait que les feuilles de certaines plantes s'élèvent et s'abaissent au cours de la journée. Et c'est ce mouvement, en fait, périodique, à une période de l'ordre de 24 heures. Et le premier article traitant des rythmes circadiens et de leur mécanisme, de leur origine, est dû à Jean-Jacques d'Orthouse de Méran, qui fut secrétaire de l'Académie des sciences de Paris aux alentours de 1750. Et cet article a été publié en 1729. C'est un article remarquable, qui fait une seule page. Et l'idée que de Méran a eue, c'est en observant que les feuilles de certaines plantes s'abaissent et s'élèvent au cours de la journée, il s'est demandé si ce mouvement persistait en l'absence de l'alternance du jour et de la nuit, donc de perception de l'alternance du jour et de la nuit. Donc il a placé la plante en obscurité constante et il a vérifié que le mouvement se poursuivait. Et il en a conclu, c'était la sensitive, la plante qu'il utilisait, c'est un très beau texte, il a conclu que la sensitive sans donc le soleil, sans le voir d'aucune manière. Et cela paraît avoir rapport à cette malheureuse délicatesse d'un grand nombre de malades qui s'aperçoivent dans leur lit de la différence du jour et de la nuit. Alors il propose, dans son deuxième paragraphe, tout un programme de travail dont certains points ont été réalisés et d'autres ne l'ont pas encore été. Et c'est remarquable comme exemple d'article concis et qui apporte des lumières importantes. Alors ces rythmes circadiens sont observés chez la plupart des organismes vivants, y compris certaines bactéries, les cyanobactéries. Donc tous les eucaryotes possèdent des rythmes circadiens, et ces rythmes permettent aux organismes de s'adapter à l'alternance du jour et de la nuit, et d'anticiper de manière autonome le temps de la journée. Alors quelles sont leurs propriétés? Donc c'est d'abord l'ubiquité, l'entraînement par des cycles de température ou des cycles de lumière-obscurité. La génétique a beaucoup apporté à l'étude des rythmes circadiens, j'y reviendrai. Ils sont très précis, leur période ne varie pas en fonction de la température, on appelle ça compensation de température, et ces rythmes se produisent déjà au niveau cellulaire. Alors, je montrerai dans cet exposé très brièvement comment on peut utiliser des modèles mathématiques pour rendre compte de l'origine des rythmes circadiens, de leur mécanisme. Et là, ces modèles, en fait, ont été proposés, il y en a de plus en plus, et ils sont d'une complexité croissante, parce que de nouvelles données expérimentales s'accumulent, qui conduisent à proposer des modèles de plus en plus complexes. Et je discuterai brièvement à la fin de l'exposé, quel est le rôle de cette complexification des modèles. Faut-il absolument rendre les modèles plus complexes? Et je ferai le lien avec la physiologie en parlant de certains désordres, de certains troubles du sommeil. Alors, l'histoire des rythmes circadiens dans le domaine de la biologie moléculaire commence avec cette étude remarquable, publiée en 1971, donc il y a 35 ans, par Konopka et Benzer dans PNAS. Et Konopka et Benzer ont isolé des mutants de l'horloge circadienne chez la drosophile. Et ils ont d'abord montré que le type sauvage de la drosophile possède un rythme circadien d'activité locomotrice. Ce rythme, en condition constante, possède une période de l'ordre de 24 heures. Puis ils ont isolé un mutant court, 19 heures, et un mutant long, 28 heures. Et ils ont montré qu'un gène, qu'ils ont appelé le gène PER, PER pour période, était muté donc, dans ces mutations courtes et longues. Alors, je montrerai peu de données expérimentales, mais je vous montre certainement donc le résultat essentiel, qui est dû au groupe de Michael Rosbach. Donc, en 1990, ils ont montré que le gène PER s'exprime de manière périodique au cours de la journée. C'est-à-dire qu'en condition d'obscurité constante, il y a une expression du gène PER, donc le gène est transcrit en ARN messager, et il y a un pic d'ARN messager PER par jour. Puis ils ont réalisé cette expérience dans un cycle lumière-obscurité, un cycle de 12 heures de lumière, 12 heures d'obscurité, ce qui leur a permis de montrer que le pic survenait 4 heures environ après la transition lumière-obscurité. De plus, quelques années plus tard, en 4 ans plus tard, ils ont montré que la protéine PER, qui est synthétisée à partir donc, de l'ARN messager du gène PER, eh bien, la protéine est synthétisée de manière périodique également. Et il y a un retard de plusieurs heures entre la synthèse de la protéine et la synthèse de l'ARN messager. Et on voit ici que l'augmentation de la protéine correspond à la diminution de l'expression du gène. Alors cette relation de phase leur a suggéré un mécanisme moléculaire pour le rythme circadien, qui est schématisé ici. Donc dans le noyau cellulaire, il y a le gène PER qui est transcrit en ARN messager, qui quitte le noyau pour aller dans le cytoplasme de la cellule, et dans le cytoplasme, il est traduit en protéine. La protéine PER retourne au noyau pour réprimer l'expression de son propre gène. Nous avons donc ici affaire à un phénomène, un processus d'autorégulation négative de l'expression du gène. Et c'est un feedback négatif, une rétroaction négative. Et cette rétroaction négative serait responsable du mécanisme, donc de l'apparition d'un rythme dans l'expression du gène et dans la traduction de la protéine. Dans l'apparition de la protéine. Alors, je vous dis tout de suite que le mécanisme est plus complexe que celui-là, mais ce mécanisme de rétroaction négative est à la base de la plupart des rythmes circadiens observés dans les organismes vivants. Chez les cyanobactéries, c'est un exemple récent, l'année passée, on a pu montrer que le rythme peut être, la cascade biochimique responsable de rythme peut être reconstituée in vitro. Et le mécanisme semble légèrement différent. Mais donc, chez la drosophile et chez les mammifères, il s'agit bien d'un processus d'autorégulation négative de l'expression des gènes, avec évidemment des détails qui rendent le mécanisme plus complexe, mais j'y viendrai. Alors, le premier chercheur qui avait eu l'idée que cette autorégulation négative peut donner un comportement rythmique, c'est Brian Goodwin. Brian Goodwin, qui, il y a 40 ans de cela, avait proposé un système d'équations pour une réaction, donc X donne Y, Y donne Z, et Z inhibe l'étape allant de X à Y. L'étape de synthèse de X, plutôt. Donc ça, c'est la présence de Z au dénominateur ici, qui traduit un phénomène d'inhibition. Et Goodwin avait montré que ce système d'équations possède des solutions périodiques. En fait, il l'avait fait grâce à des simulations sur calculateur analogique, et elles étaient assez imprécises, parce que Griffiths a montré analytiquement que ce système d'équations ne possède pas d'oscillation entretenue, sauf si Z est élevé à la puissance 8 ou à une puissance supérieure à 8. C'est un détail important peut-être, mais en tout cas, ça ne change rien à l'idée. Ce modèle s'appelle le modèle de Goodwin, et il est encore utilisé avec Z exposant 9, par exemple, pour donner des oscillations entretenues. Alors, Le premier modèle que nous avons étudié pour le mécanisme des rythmes circadiens, c'est un modèle qui est fondé sur la régulation du gène père chez la drosophile. Et c'est un modèle relativement simple. Les mathématiciens trouveront que c'est déjà très compliqué parce qu'il y a plus de 2 variables. Il y en a 5. Mais c'est relativement simple quand on voit la complexité du système biologique tel qu'on le connaît aujourd'hui. Alors, le gène ici dans le noyau est transcrit en ARN messager qui migre vers le cytosol, vers le cytoplasme où il est détruit. L'ARN messager est traduit en protéine. Cette protéine est phosphorylée. Donc, il y a un phénomène de modification chimique de la protéine par phosphorylation réversible, catalysée par des enzymes. Ça, c'est une protéine kinase qui catalyse ceci. La réaction inverse étant catalysée par une phosphatase. Bon, cette phosphorylation est multiple. Le modèle comprend 2 phosphorylations successives. En réalité, il y en a plus, mais ça ne change pas grand-chose à la dynamique du système. Lorsque la protéine est phosphorylée, elle est dégradée, mais elle entre également dans le noyau de manière réversible, et dans le noyau, elle réprime l'expression du gène. C'est donc un modèle qui est fondé sur les données expérimentales. Il y a la phosphorylation en plus par rapport aux expériences de Rosbach, parce que cette phosphorylation elle a été mise en évidence seulement en 1994. D'un point de vue mathématique, donc les variables sont la concentration de l'ARN messager de pair, la concentration de la protéine non phosphorylée, monophosphorylée, bisphosphorylée dans le cytosol, et la concentration de la protéine pair dans le noyau. Ces termes, ici j'y reviendrai, ces termes de régulation, ça ce sont des termes de type Michaelis-Menten, donc cinétique hyperbolique, pour la dégradation de l'ARN, pour la phosphorylation et la déphosphorylation de la protéine. Et ce terme-ci, c'est un terme de synthèse de protéines avec une vitesse proportionnée à la quantité d'ARN messager. Bon, c'est évidemment assez cru comme représentation, mais nous ne nous intéressons pas aux détails de la synthèse de protéines. C'est un processus qui comprend des dizaines d'étapes. On la représente par une étape unique avec une constante apparente du premier ordre. Et donc, ce terme-ci, ce qui s'appelle une fonction de Hill, décrit l'inhibition coopérative de l'expression du gène par la protéine nucléaire paire, avec un degré de coopérativité n. Lorsque n égale 4, eh bien ça c'est donc cette fonction de Hill, elle part d'un maximum quand Pn vaut 0, et elle décroît vers 0 quand Pn augmente. Elle décroît de manière coopérative quand n est égal à 4, plus donc quand n augmente, la courbe devient de plus en plus raide. Même pour n égale 1, on peut déjà obtenir une solution périodique. Quand on intègre ces équations de manière numérique, on peut trouver un domaine de paramètres dans lequel une solution périodique est obtenue. En rouge, c'est la variation de l'ARN messager, et en turquoise, c'est la variation de la protéine totale qui suit l'ARN messager de quelques heures comme on l'observe dans les expériences. Alors, quand on porte la variation donc, de l'ARN messager en fonction de la protéine totale dans ce qu'on appelle l'espace des concentrations ou l'espace des phases, eh bien, le système, pour ces valeurs de paramètres dont j'ai parlé, n'atteint pas un état stationnaire stable. Au contraire, il quitte l'état stationnaire qui est instable pour tourner autour de lui dans l'espace des phases jusqu'à atteindre une courbe fermée. Cette courbe fermée est unique pour le système d'équations considéré. On peut l'atteindre au départ d'une autre condition initiale, à l'extérieur du cycle, et cette courbe fermée s'appelle un cycle limite. Poincaré a introduit ce genre d'objet mathématique en cosmologie et en mécanique céleste. Le cycle limite est parcouru en exactement une période. Ce sont des oscillations très stables, mais la particularité de ces oscillations, c'est qu'elles surviennent pour des valeurs précises des paramètres. Et ça, une description purement verbale du mécanisme de rétroaction négative dont j'ai parlé ne permet pas d'en rendre compte. C'est l'analyse du modèle mathématique qui permet de montrer qu'il y a des points critiques correspondant à des valeurs critiques du paramètre, par exemple la vitesse de dégradation de la protéine. En dessous d'une valeur critique, il n'y a pas d'oscillation, le système évolue vers un état stable. Au-dessus d'une seconde valeur critique, le système évolue vers un état stationnaire stable. Et c'est entre ces deux points qu'on appelle point de bifurcation, que le système évolue vers des oscillations entretenues. Ici, on a représenté la période en fonction de ce paramètre de contrôle. Et on voit que la période peut varier de 15 heures à 60 heures, Donc, la période circadienne de 24 heures se trouve quelque part sur cette courbe. Alors, dans ce modèle, en fait, il n'y a rien qui est dit sur l'effet de la lumière. Parce que l'effet de la lumière, au moment où ce modèle a été proposé, n'est pas connu. Or, on sait que la lumière, qu'un cycle lumière-obscurité, peut entraîner les rythmes circadiens. C'est d'ailleurs la propriété fondamentale de ces rythmes. C'est de permettre aux organismes vivants d'être entraînés par le cycle lumière-obscurité. Et c'est en 1996 que plusieurs groupes d'expérimentateurs ont mis en lumière, c'est le cas de le dire, la manière par laquelle le rythme circadien est contrôlé par l'intensité lumineuse. Alors, ce qui se passe, c'est que vous reconnaissez ici en dessous le modèle dont j'ai parlé, avec le gène père qui est transcrit en ARN, traduit en protéines, phosphorylé et dégradé. Mais la protéine père n'est pas la seule protéine qui joue un rôle dans le système. Une seconde protéine a été impliquée à ce moment-là, qu'on a appelée TIM, TIM pour timeless, qui a perdu le sens du temps. Et la protéine TIM, donc le gène TIM est exprimé en ARN TIM, qui est traduit en protéine TIM qui est phosphorylée. La protéine TIM forme un complexe avec la protéine père. Et c'est le complexe père-TIM qui migre du cytoplasme vers le noyau pour réprimer l'expression des deux gènes. Donc l'autorégulation négative par le complexe père-TIM serait à la base du mécanisme du rythme circadien. Puis la lumière, que fait-elle? Elle induit la dégradation de la protéine TIM. Donc chez la drosophile, la lumière induit la dégradation d'une protéine. Chez Neurospora, qui est un champignon, et chez les mammifères, on sait maintenant que la lumière agit autrement, elle induit l'expression de certains gènes de l'horloge. Mais j'y reviendrai. Donc, quand on incorpore cette régulation par la lumière et le rôle de la protéine TIM, on arrive à décrire le système qui est plus complexe par un système de 10 équations différentielles, qui sont bien entendu non linéaires, où on a deux fonctions de Hill, ici, du type de celles que j'ai discutées, ceci étant le paramètre contrôlé par la lumière. Et la dynamique de ce système peut être étudiée maintenant dans différents types de conditions lumineuses. En obscurité constante, qu'on appelle DD, dark, dark, il y a des oscillations entretenues. En lumière constante, il y a des oscillations amorties. Et en lumière-obscurité, le paramètre contrôlé par la lumière varie alors comme une onde carrée, élevée, vitesse de dégradation élevée pendant la phase lumineuse, vitesse de dégradation faible pendant la phase obscure, et on alterne entre les deux en formant une onde carrée, on peut entraîner les oscillations. Si ici, en obscurité constante, les oscillations ont une période de 23 heures, elles seront entraînées à 24 heures dans un cycle lumière-obscurité. Alors, on peut utiliser le modèle pour tester certains types de perturbations. Par exemple, on sait que lorsqu'on donne une pulsation lumineuse en obscurité constante pendant le rythme circadien, on peut induire un déphasage du rythme. Soit on peut induire une avance de phase, soit un délai, soit pas de déphasage du tout. Et ici, c'est ce qu'on illustre dans le modèle. Voilà les oscillations non perturbées. Une ligne verticale passe par le quatrième pic, qui servira de référence. Quand on donne un pulse, donc on augmente de manière transitoire la vitesse de dégradation de la protéine TIM, on induit un délai lorsqu'on donne le pulse dans la phase de croissance de la protéine TIM. Un peu plus loin, au pic de la protéine TIM, on induit une avance. Et au minimum de la protéine TIM, il n'y a pas de déphasage du tout. Et quand on porte le déphasage en fonction de la phase à laquelle on a perturbé le rythme, on a un nombre de points qui permettent de tracer une courbe continue. Et cette courbe s'appelle la courbe de réponse de phase. Ça, c'est ce qu'on obtient dans le modèle. Et lorsqu'on compare cela aux données expérimentales, la courbe dont je viens de parler est la courbe en trait plein, et les points rouges sont les points expérimentaux chez la drosophile. Donc on voit qu'on peut avoir un très bon accord. Qu'est-ce que le modèle suggère? Quelle est l'utilité du modèle dans ce cas? C'est de donner un ordre de grandeur pour la durée de l'effet de la perturbation lumineuse sur le paramètre biochimique, c'est-à-dire la vitesse de dégradation de la protéine TIM. Ici, pour obtenir ce bon accord, on a dû supposer que la vitesse de dégradation augmente, donc est multipliée par 2 pendant 2 heures, même si la perturbation lumineuse est brève. Mais on peut penser que la perturbation lumineuse induit l'expression d'un gène codant pour une enzyme impliqués dans la dégradation de la protéine. Alors, une prédiction surprenante du modèle, c'est que dans certaines conditions, on a le rythme. Quand on perturbe le système par la perturbation lumineuse, donc ça conduit à une augmentation transitoire du paramètre VDT qui mesure la dégradation de la protéine TIM, on peut supprimer le rythme de manière permanente. Et quand on redonne la même perturbation, on peut restaurer le rythme de manière permanente. Alors c'est un phénomène surprenant. Il correspond à une observation expérimentale. Dans certains organismes, en obscurité constante, on a un rythme circadien qu'on peut supprimer avec une seule impulsion lumineuse. Et une seconde impulsion restaure le rythme. Et ceci, donc, résulte dans le modèle, ça pourrait l'expliquer, et dans le modèle, ça correspond à une coexistence entre un attracteur périodique et un attracteur ponctuel, un état stationnaire. Et ce type de coexistence entre un état stable, stationnaire, et un état périodique stable, est rencontré dans de nombreux systèmes non linéaires, et est une propriété de ce modèle. Donc, ce pourrait être une explication pour cette observation. Du chaos peut également être obtenu dans ce modèle, donc ceci représente non plus un cycle limite mais un attracteur étrange, dans un petit domaine de l'espace des paramètres. Je montre ça parce que ça a un intérêt mathématique, mais physiologiquement, il ne semble pas que ça corresponde à une observation expérimentale. Alors, ces modèles sont déterministes, c'est-à-dire qu'ils ne tiennent pas compte des fluctuations qui peuvent survenir lorsque le nombre de molécules présentes dans le système est faible. Et que se passe-t-il lorsque on tient compte du petit nombre de molécules, donc on doit recourir à des situations stochastiques? Le cycle limite déterministe en blanc est alors remplacé par un cycle limite probabiliste ici, où on voit qu'il y a une certaine épaisseur dans l'espace des phases, et pour peu que le nombre de molécules soit suffisant, eh bien, l'approche déterministe donne une bonne approximation du comportement en présence de bruit moléculaire. En réalité, le mécanisme est plus complexe que celui que j'ai mentionné. Donc j'ai parlé d'une rétroaction négative directe exercée par le complexe PERTIM. En réalité, c'est une rétroaction négative indirecte. Il y a deux activateurs, qu'on appelle ça que les cloques, qui induisent l'expression des gènes PER et TIM. Et lorsque les protéines PER et TIM sont synthétisées, eh bien, elles se lient aux activateurs, ça que les cloques, pour former un complexe inactif. Donc, l'autorégulation négative est indirecte. Elle s'opère par inactivation d'activateurs de PER et TIM. Bon, alors on peut tenir compte de cette complexité supplémentaire, mais je vais passer au cas des mammifères parce que le mécanisme est similaire. Alors chez les mammifères, on sait que l'horloge principale qui contrôle les rythmes circadiens se trouve dans l'hypothalamus. Plus précisément dans les noyaux suprachiasmatiques, qui comprennent chacun, il y en a deux, qui comprennent plusieurs milliers d'euros. On appelle ça le SCN, en français NSC, les noyaux suprachiasmatiques. Et le mécanisme moléculaire qui produit les rythmes circadiens au sein des noyaux, des cellules des noyaux suprachiasmatiques, est très similaire à celui observé chez la drosophile. Donc il y a non plus un gène pair, mais trois gènes pairs. Pair 1, pair 2, pair 3. PER fait un complexe avec une protéine qui s'appelle CRI. PER-CRI se lie, pour les inactiver, à deux activateurs qui s'appellent CLOC et BMALPA. Donc c'est une autorégulation négative indirecte. Alors là, on peut tenir compte de cette régulation, et c'est le troisième modèle dont je voulais parler, qui a été étudié à Bruxelles avec Jean-Christophe Leloup. Il est présenté ici-dessus, donc il est plus complexe. Et en dessous, complexité supplémentaire, il y a une boucle de régulation de plus qu'on considère, c'est la boucle exercée par CLOC BMAL1 sur l'expression de BMAL1. C'est une nouvelle régulation négative. Alors, on trouve des oscillations dans ce réseau de régulation, mais ce qui est très curieux, c'est que si on supprime la synthèse de la protéine PER, bon, ceci n'est pas curieux, le premier, ceci est curieux, mais ceci au-dessus ne l'est pas. Quand on supprime la synthèse de la protéine PER, on supprime les oscillations. Et ça, on s'y attend, puisque la protéine PER joue un rôle prépondérant dans l'origine du rythme. Mais si on change un autre paramètre en absence de la protéine PER, on retrouve des oscillations. Ce qui suggère qu'il y a un deuxième oscillateur présent au sein du réseau de régulation. Et ce deuxième donc, oscillateur, en fait, on va voir d'où il vient. Donc ça, c'est une représentation schématique ou CLOC et BMAL1 sont les activateurs qui induisent l'expression de paires écrits. Quand les protéines sont synthétisées, elles inhibent l'activation par CLOC BMAL1. Quand on supprime la protéine paire, cette boucle de régulation n'existe plus. Mais il y en a une autre. CLOC BMAL1 inhibe l'expression des gènes CLOC BMAL1. C'est cette autorégulation négative-ci qui est à même de donner à nouveau des oscillations. La question reste ouverte de savoir si physiologiquement cet oscillateur s'exprime ou non. Comme je vous l'ai montré, un système oscille dans un domaine précis d'espace des paramètres et il se peut que cette boucle fonctionne hors du domaine d'oscillation entretenue, mais la question donc doit encore être étudiée expérimentalement. Alors pour conclure, je ferai brièvement le lien avec certains troubles du cycle veille-sommeil. Parce que il y a quelques années, il y a 50 cela, il y a un article qui a été publié par le groupe de Ptasek aux États-Unis qui décrivait un trouble du sommeil qui s'appelle le syndrome familial d'avance de phase du cycle veille-sommeil. Alors, ce syndrome, donc les personnes atteintes par ce syndrome vont dormir à 7h30 du soir et se réveillent à 4h30 du matin. Donc la durée du sommeil est normale, mais leur phase est avancée de quelques heures. Et ce qui est très intéressant ici, c'est qu'il y a un lien direct avec l'horloge circadienne. Ce que ces chercheurs ont montré, c'est qu'une protéine de l'horloge circadienne, la protéine paire 2, est phosphorylée moins que, normal, que la forme normale. Donc il y a une hypophosphorylation de la protéine paire, qui s'accompagne d'une période autonome réduite. Au lieu d'avoir une période de l'ordre de 24 heures en conditions d'obscurité constante, la période est raccourcie. Et le modèle que j'ai présenté, ce modèle-ci, permet de tester l'effet de cette phosphorylation moindre. Parce que l'enzyme qui catalyse la phosphorylation de la protéine paire, l'enzyme qui s'appelle la caséine-kinase 1 epsilon, est un paramètre du modèle. Et lorsqu'on étudie le comportement du modèle en fonction de cette vitesse de phosphorylation, il y a deux courbes sur ce graphique. La première donne la période des oscillations autonomes en obscurité constante. On voit que la dépendance est non linéaire, mais on voit qu'il existe un domaine de la courbe où la période diminue quand la vitesse diminue de phosphorylation. Ça, c'est ce qu'on observe expérimentalement. La deuxième courbe donne la phase des oscillations entraînées par le cycle lumière-obscurité. Donc, et on voit que lorsqu'on diminue la vitesse de phosphorylation, eh bien, une diminution correspond à une avance de phase. Parce que ce point-ci, par exemple, par rapport à ce point-là, vous voyez qu'ici, on a une avance de phase. Le maximum de la protéine de l'ARN de paire se produit quelques heures avant la production de ce maximum pour cette valeur-ci du paramètre. Donc, le paramètre ici, lorsqu'il diminue, lorsque la vitesse de phosphorylation diminue, on a bien une avance de phase et une diminution de la période. Et ce diagramme suggère que le syndrome inverse de délai de phase du sommeil pourrait correspondre à une augmentation de la vitesse de phosphorylation. Et ce syndrome existe également chez les personnes qui ont tendance à aller dormir à 2h du matin ou 3h du matin et ont tendance à dormir jusqu'à minuit, par exemple. Donc, ils sont déphasés avec un délai plutôt qu'une avance. Alors, le modèle a permis de rendre compte d'un syndrome, d'un comportement curieux, qui est l'absence d'entraînement. Donc, pour certaines valeurs des paramètres, ce modèle n'était pas capable de rendre compte de l'entraînement par le cycle lumière-obscurité. Donc, ce qui s'est passé, par exemple, c'est qu'au cours du temps, c'est un exemple typique, dans un cycle lumière-obscurité, au lieu d'avoir un entraînement, il y a une accumulation progressive de la protéine paire. Puis, elle diminue, elle finit par diminuer, mais cette longue périodicité d'une vingtaine de jours empêche l'entraînement par le cycle lumière-obscurité de 24 heures. Et ceci se produit, par exemple, lorsque la protéine CRI a un niveau trop faible. Il a suffi d'augmenter la synthèse de la protéine CRI. Je vous rappelle que paire forme un complexe avec CRI. Donc ce qui se passe, c'est que lorsque la lumière induit l'expression du gène paire, le gène paire est synthétisé, il se lie à la protéine CRI. Mais si la protéine CRI est peu abondante, le gène paire va s'accumuler sous forme libre. Et de jour en jour, il va s'accumuler à condition que sa dégradation ne soit pas suffisamment rapide. Donc d'un jour à l'autre, il s'accumule et cette longue périodicité s'installe. Il suffit d'augmenter la vitesse de synthèse de la protéine CRI pour permettre l'entraînement. Donc voilà une vision systémique d'un trouble du cycle veille-sommeil. puisque ce n'est pas un élément particulier du système qui est en cause, mais ce sont les relations entre différentes protéines du réseau de régulation. Alors, ceci illustre que lorsqu'on augmente la synthèse de la protéine paire dans le modèle, on a donc d'abord, ça c'est lorsque le niveau est faible, on a une absence d'entraînement, on augmente un peu, on modifie légèrement, mais en augmentant au-dessus du valeur critique, on a bien l'entraînement par le cycle lumière-obscurité. Alors, il existe un syndrome qui correspond à cette absence d'entraînement. Et ce syndrome s'appelle le non-24-hour sleep-wake cycle syndrome. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui vont chaque jour dormir à un autre moment de la journée. Et il y a une dérive, par exemple, d'une vingtaine de minutes chaque jour, et au bout d'une vingtaine ou d'une trentaine de jours, on revient en phase. Alors, parfois, quand on agrandit l'échelle ici, on voit qu'on peut avoir un passage très rapide à travers la phase d'obscurité. En quelques jours, on passe à travers la phase d'obscurité, mais puis pendant une vingtaine de jours, on a une dérive lente dans la phase de lumière. Et il existe ce type de lien entre le syndrome de rythme différent de 24 heures et l'existence de ces sauts de phase chez des patients qui présentent donc ce syndrome. Alors c'est... donc on peut dire que le modèle a permis d'identifier un candidat possible pour la base moléculaire de ce syndrome, donc d'absence d'entraînement. Alors, j'ai parlé de rythme circadien. C'est certainement un exemple de démarche intégrative, puisqu'il s'agit de tenir compte des propriétés du système tout entier. Il n'y a pas une seule étape qu'on peut identifier dans le système, mais ce sont évidemment les interactions entre plusieurs éléments du système qui permettent d'en rendre compte. Et ce genre d'approche fait partie de ce qu'actuellement on appelle la biologie des systèmes. La biologie des systèmes, bien entendu, est bien plus ancienne. On peut remonter à Barnard-Malanfi dans les années 50-60, hein, théorie générale des systèmes. Mais il y a certainement un renouveau de la biologie des systèmes qui est sans doute dû au fait qu'on a réalisé que le séquençage du génome ne suffisait pas à expliquer le comportement dynamique des organismes vivants et qu'il faut tenir compte des propriétés systémiques basées sur les données moléculaires. Et donc, c'est ce que j'ai essayé de faire dans le cadre de cet exposé.